Nous allons continuer notre étude de l'Évangile selon Luc, et avec l'angle plus particulier des miracles que Joël a ouvert la semaine dernière. Et on va s'attarder sur un miracle tout à fait intéressant et assez extraordinaire, qui est celui de la résurrection. Alors j'aimerais ouvrir ce message par un verset d'un des plus beaux passages du Nouveau Testament sur la résurrection, qui a été composé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14. S'il n'y a point de résurrection des morts, donc chapitre 15, versets 12 à 14, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi, la vôtre, la mienne, aussi est vaine. Alors, j'ouvre ce sujet par ce verset, puisque si la résurrection des morts n'est pas possible, alors on perd tous notre temps, ce matin en particulier, et moi en préparant ce message, puisque s'il est impossible pour un mort de revenir à la vie, alors Jésus non plus n'a pas pu revenir à la vie. Donc si Jésus n'est pas vivant mais est mort, on va rester mort également. Notre salut ne sera pas possible puisque la question du mal et du péché ne sera pas réglée. Donc dans un tel monde, si la résurrection des morts n'est pas possible, notre espérance est vaine. Et on ferait mieux effectivement d'aller consacrer notre temps à des choses plus urgentes, plus directes, plus réelles. Sans la résurrection, tout ce que nous croyons s'effondre. Et nous, en plus, on serait un peu les dindons d'une farce qui nous échappe, puisque ça voudrait dire aussi que toute la Bible ment. Et on aurait cru quelque chose qui ne serait qu'une fable. Donc, je profite de ce moment pour réaffirmer, dès le début de cet exposé, ce qui me semble être des vérités fondamentales, et qui seront en fait la base de cet exposé. C'est-à-dire que mon objectif, ce n'est pas de faire un exposé général sur la résurrection, mais c'est de partir du point de départ que la résurrection des morts est réelle. C'est-à-dire que la réanimation d'une personne décédée est possible. Et je ne vais pas chercher à en discuter la faisabilité, la véracité scientifique, la plausibilité philosophique, peu importe. Je pars du principe, puisque la Bible le dit, que la résurrection des morts est réelle, est possible. Ce n'est pas simplement, parce qu'on peut entendre cela parfois dans certaines églises, ce n'est pas simplement une résurrection morale, symbolique, qui nous ferait du bien en tant que chrétien de croire que notre vie va être transformée maintenant et qu'ensuite on verra après la mort. Non. La résurrection des morts est possible, réelle, c'est le point de départ de cet exposé. Et la résurrection en particulier de Jésus-Christ est un événement historique réel, fondé, fondamental pour le plan rédempteur de Dieu. Et je ne chercherai pas non plus ici à en démontrer l'historicité, la réalité, à questionner toutes les théories possibles sur ce qu'il est advenu au corps de Jésus, puisque pour moi, il a été ressuscité et il est monté au ciel en triomphe, comme on l'a rappelé ce matin. Donc, ce n'est pas un exposé sur la résurrection, c'est un exposé sur la façon dont Luc nous parle de cette résurrection. Ce qui veut dire que si vous doutez de cette résurrection, ce qui est possible, vous pouvez bien sûr rester, c'est pas un problème, mais mon objectif ne va pas être de vous convaincre de quoi que ce soit, ou d'en faire une démonstration, mais plutôt de vous montrer comment Luc nous parle de sa beauté, de la portée, de la beauté de la résurrection, de son importance pour la foi chrétienne. Et si en chemin vous évoluez sur cette question, tant mieux, mais ce n'est pas mon objectif. Donc, nous sommes dans une étude de l'Évangile. Notre hypothèse de départ, c'est que Luc considère la résurrection sous deux aspects. Un aspect très physique, très concret, la réanimation des corps. Et nous avons dans l'Évangile selon Luc deux miracles de résurrection qui sont détaillés sur ce miracle, donc cette réanimation de personnes décédées. Mais l'autre aspect que Luc développe, et qui est un peu le fil conducteur de cette développée, c'est l'annonce, la préfiguration d'une résurrection totale, complète, donc dans une perspective plus eschatologique, qui se traduit d'abord par la résurrection, avec un R majuscule, si j'ose dire, de Jésus en tant que tel, et une résurrection qui nous est promise, à nous autres chrétiens, à la fin des temps. Et ces deux aspects-là, ils partent d'un constat d'étonnement, c'est-à-dire qu'il m'a semblé, à la lecture des différents épisodes que nous occuperons, que chez Luc, le miracle de la résurrection ne l'intéresse pas tant que ça, en tout cas n'est pas le cœur de son sujet. Par contre, ce qu'il nous révèle sur Jésus et sur notre avenir, beaucoup plus. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Et c'est un premier motif d'étonnement, et qui constituera la première partie de cet exposé, à savoir que la résurrection, qui est le miracle le plus extraordinaire qui soit, le retour à la vie d'un mort, est traitée de façon antispectaculaire par Luc. Elle n'est pas perçue comme un spectacle. Donc pareil, les amateurs de sensations fortes peuvent aussi en avoir pour leurs frais, puisque la sobriété sera la règle dans l'ensemble de ce que Luc peut nous présenter. Donc c'est mon premier point. La résurrection chez Luc n'est pas un spectacle. Alors, elle est importante quand même, au sens où elle apparaît fréquemment dans l'Évangile. Elle est évoquée à plusieurs reprises, de manière directe ou indirecte. De manière directe, nous avons deux miracles de résurrection opérés par Jésus qui sont présentés. Un au chapitre 7, la résurrection du fils de la veuve à Naïm, donc en Galilée, et un au chapitre 8, avec la résurrection de la fille de Jaïrus, qui est aussi évoquée chez Matthieu. On n'a en revanche pas de mention de la résurrection de Lazare, contrairement à l'évangile selon Jean. J'y reviendrai. On a également des annonces par Jésus de sa propre résurrection. On le voit, il y a quelques versets au chapitre 9 de l'évangile selon Luc qui en parle, versets 22, 43, 45. Et au chapitre 18 également, l'évangile selon Luc, Jésus annonce à ses disciples sa propre résurrection. La résurrection est aussi évoquée dans les enseignements, dans les paraboles. On le voit à deux moments, la parabole, l'histoire de l'homme riche et de Lazare, qui se termine d'ailleurs par une mention assez déceptive sur la résurrection comme miracle en tant que tel, puisque il est question de l'inefficacité de la résurrection pour convaincre des cœurs endurcis, puisque c'est la fin de cette parabole. Et puis l'échange que Jésus a avec les Sadducéens, où nous avons au chapitre 20 de l'Évangile selon Luc un débat entre des tenants d'une école sceptique sur la résurrection, qui essaie de coincer Jésus sur un problème légal, sur le nombre de maris qu'une femme décédée aura dans l'au-delà si elle a eu plusieurs mariages successifs dans sa vie, et Jésus qui ouvre à ce moment-là une projection sur l'avenir, sur la résurrection totale et future qui nous concerne. Et puis bien sûr, nous avons la résurrection de Jésus lui-même, en Luc 24, donc ce chapitre magistral qui clôt l'évangile, un peu à l'image des autres, mais avec un angle un peu particulier. Alors, pourquoi j'insiste sur le caractère antispectaculaire ? Pour le comprendre, je vous propose d'aller lire les deux miracles de résurrection, qui pourraient être annoncés avec tambour et trompette quelque chose d'extraordinaire et qui est traité sur le mode de la sobriété. Alors pour ça, nous allons partir au chapitre 7 de l'évangile selon Luc, en lisant à partir du verset 11 cette histoire du fils de la veuve de Naïn, et on lira aussi quelques versets du chapitre 8 pour la fille de Jaïrus. Donc, je lis à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Pardon. Voilà pour le premier miracle de résurrection. Nous partons ensuite au chapitre 8. Alors je ne vais pas lire l'ensemble du passage, puisque ce miracle s'intercale avec un autre miracle qui a son importance tout de même dans le cadre du passage, mais pour gagner un peu de temps, je vais faire sauter les versets 43 à 48. Donc, Jésus fut reçu par la foule car tous attendaient. Et voici, il vint un homme, chapitre 8, verset 41, qui était chef de la synagogue, Jaïrus. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Nous avons ensuite donc l'intervention de la femme qui souffre d'une maladie du sang qui occasionne un retard, une guérison spectaculaire, et ce retard provoque la mort de la fille de Jaïrus. On en vient au verset 49. « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant où elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors, pourquoi j'y vois de la sobriété ? Déjà dans les circonstances, ça a une importance notamment pour distinguer ces miracles-là du miracle de résurrection qui concerne Jésus. Dans ces deux cas, dans ces deux miracles-là, on a le sentiment, alors sentiment qui est narratif, qui n'est pas forcément une réalité, mais en tout cas on a le sentiment qu'ils ont été provoqués par hasard. On a le sentiment que quelque chose dans les circonstances se passe qui provoque ces résurrections. Pour Naïn, c'est le croisement de deux cortèges. Jésus accompagné d'une foule d'admirateurs, de curieux, de disciples, dans une bourgade un peu reculée de la campagne galiléenne, et qui se retrouve à la périphérie de la ville, devant le cortège funéraire des pleureurs et pleureuses qui accompagnent cette veuve qui vient de perdre son enfant. Donc, même visuellement, on a quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, inattendue, impromptue, qui est aussi, d'ailleurs, qui concerne aussi le passage avec Jaïrus, où c'est l'initiative de Jaïrus, là encore Jésus autour d'une foule, Jaïrus qui souhaite la guérison de sa fille, et ensuite le retard inopiné pris à cause de la guérison de la femme qui touche le manteau de Jésus. Et donc, le retard, on pourrait dire qu'il était imprévu, et que la fille de Jaïrus ne serait pas morte s'il n'y avait pas eu ce retard. Donc, il y a quelque chose dans ces deux miracles, dans le contexte, qui donne le sentiment qu'on est sur des hasards heureux, des circonstances heureuses. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le fait que ces deux miracles se jouent dans une forme d'intimité. Alors, c'est paradoxal pour le premier, puisqu'on a bien une foule, enfin deux foules qui se rencontrent, mais la façon dont Luc raconte ce miracle à Naïn, on a le sentiment que la foule disparaît au fur et à mesure que Jésus se rapproche de la veuve. Elle évoquait au début une grande foule, et voici, beaucoup étaient autour de la veuve, verset 12. Et d'un seul coup, tous ces gens-là qui pullulent autour de Jésus disparaissent, c'est comme si le dispositif se resserrait comme un zoom, vous voyez, ou un plan rapproché au cinéma, autour de la rencontre entre Jésus, ce mort, et cette veuve. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient, donc il y a ceux qui sont autour de la bière, s'arrêtèrent, et ensuite, on a la résurrection en tant que telle. Donc, on a une sorte de zoom vers l'intimité qui n'est pas tout à fait le traitement spectaculaire qu'on pourrait attendre d'une résurrection. Et c'est encore plus frappant avec Jaïrus, puisque avec Jaïrus, on a carrément Jésus qui demande aux gens de partir et qui demande à certains disciples, avec la famille, de rentrer dans la maison pour que le miracle puisse avoir lieu dans l'intimité d'un foyer éprouvé par le deuil. Alors, c'est même appuyé par la demande que Jésus fait à Jaïrus de ne pas parler de ce qui s'est passé. On pourra discuter d'ailleurs l'objectif. Dans le langage du même, le miracle est évoqué avec une simplicité dramaturgique absolument phénoménale pour le premier, et le mort s'assit, tout simplement. Et le mort s'assit. Il y a ici un paradoxe, une expression tout à fait paradoxale qui relève une anomalie. Un mort qui s'assoit n'est plus un mort. Mais pour marquer le fait qu'il y a résurrection, je pense que Luc, à dessein, inspiré par l'Esprit, désigne le ressuscité comme un mort qui s'assoit. On a quelque chose d'assez intéressant, même au niveau de la dramaturgie. Alors, concernant la résurrection de Jésus, donc là je fais un bond en avant après la crucifixion et au chapitre 24 de notre évangile, il me semble que la même sobriété se voit. Alors, on ne va pas lire l'ensemble du chapitre 24. Par contre, on constate déjà une différence au début. Quand je démarre le chapitre 24, verset 1, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. » Donc, il s'agit des femmes qui viennent visiter le tombeau de Jésus. « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. » Le sépulcre, pardon. « Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. » Alors, sobriété pourquoi ? Bah déjà parce que la résurrection de Jésus, c'est juste l'absence d'un corps. Voilà. On n'a pas les tremblements de terre qu'on voit chez Matthieu quand les anges apparaissent. On n'a pas non plus ce qu'on aurait mis, nous, peut-être, amateurs de sensations fortes, c'est-à-dire tous les truands, un passage qui montre le moment où la résurrection a lieu, où le tombeau s'ouvre, où la terre se fend en deux, j'en sais rien. On a quelque chose de très sobre, de très simple, qui va aboutir à un récit finalement assez resserré sur l'ensemble du chapitre 24, de rencontres successives entre Jésus et des personnes qui lui sont proches. Des dialogues, des échanges, une audience limitée, d'abord les anges, le dialogue entre les anges et les femmes, ensuite la rencontre de Pierre avec Jésus, ensuite le voyageur d'Emmaüs, voilà, deux personnes sur une route, un repas, et enfin la rencontre avec les disciples dans la chambre haute. Alors que ailleurs dans les évangiles, comme dirait l'autre, il est écrit quelque part, je ne sais plus où, que Jésus est apparu à plus de 500 frères, donc il y a probablement eu des effets spectaculaires de la résurrection qui ne nous sont pas racontés. Le même traitement de sobriété se vérifie pour l'ascension à la fin du chapitre 24. L'ascension est traitée avec une efficacité absolue, ça se joue en une ligne, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. On n'a même pas le temps d'avoir la fin de la bénédiction, il est déjà parti. Donc c'est très différent de ce qu'on trouve dans d'autres évangiles, et ça jure un petit peu avec le temps, la patience avec laquelle Luc, par ailleurs, déploie beaucoup de détails d'autres épisodes de la vie de Jésus ou avant son arrivée. Alors, il y a d'autres passages qui pourraient faire douter de l'intérêt que Luc porte pour le miracle en tant que tel. Je ne dis pas qu'il se désintéresse de la résurrection, mais du miracle dans son intérêt narratif. Notamment, en Luc 7, il est question de miracle de résurrection que Jésus évoque pour Jean-Baptiste, dont on n'a pas la trace. Donc, Naïn est le premier miracle de résurrection qui est évoqué. Juste après, Jésus envoie un message à Jean-Baptiste, Luc 7, verset 22, et évoque les morts qui ressuscitent, au pluriel. On peut supposer que d'autres résurrections ont pu avoir lieu dont on n'a pas la trace. On a aussi l'absence notable chez Luc de la résurrection de Lazare, ce qui est quand même très différent, par exemple, chez Jean, où le miracle de la résurrection de Lazare a une place très importante et a une importance dramatique, puisque c'est le miracle qui va, classiquement, conduire à la mort de Jésus, qui va faire réagir les autorités. Et puis, on a cette affirmation étonnante à la fin de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, qui se termine en disant, finalement, la résurrection, ça ne servira même pas à convaincre des cœurs endurcis. Donc, il y a une sorte de, pas une relativisation, ce serait presque trop fort, mais en tout cas, une sorte d'indice que Luc, à travers la résurrection, veut peut-être nous emmener vers autre chose et se méfie du caractère prodigieux, extraordinaire de ce miracle. Il s'en méfie peut-être parce que l'adhésion des personnes pourrait être plus guidée par ce caractère extraordinaire, justement, que par le message que le miracle souhaite faire passer. Ça pourrait expliquer le fait que Jésus demande à Jaïrus de taire la résurrection de sa fille. L'idée, c'est pour un médecin comme Luc, que les gens ne s'attardent pas trop sur le remède, mais plus sur la finalité, à savoir la guérison, en l'occurrence. Donc, le miracle de résurrection est important chez Luc, il est bien représenté, mais ce n'est pas simplement un retour surnaturel, magique à la vie, c'est un moyen pour Luc de nous faire connaître davantage Jésus, de nous faire connaître davantage sa personne et son plan. À mon sens, c'est l'intérêt de ce miracle dans l'Évangile selon Luc, c'est que c'est une révélation, en fait, ces miracles successifs. Une révélation progressive qui va se faire au fur et à mesure du récit et qui va concerner plusieurs aspects que je souhaite dorénavant développer. Alors, la première révélation concerne la personne de Jésus. C'est la dimension, on pourrait dire, christologique, pour employer un mot simple, du miracle de la résurrection. Qu'est-ce que ces miracles de résurrection nous apprennent sur Jésus, sur sa personne? Comme une fenêtre, si vous voulez, qui s'ouvrirait sur la nature de Jésus, à la fois homme et Dieu, mais aussi sur ses caractéristiques, compatissant et souverain. Alors je vais développer dans cet aspect-là trois points, deux points en réalité. Le témoignage de son amour, le témoignage de sa compassion, c'est-à-dire que le miracle de la résurrection nous apprend que Jésus est compassion, et le témoignage de son autorité, le témoignage de sa puissance. Enfin, je vais distinguer un peu les deux. Alors, pour ce qui concerne la compassion, ça a été évoqué ce matin dans un cantique, il me semble que, quand même, notamment dans le miracle de résurrection du fils de la veuve de Naïn, Luc nous invite à voir tout l'amour de Dieu et toute la compassion qui explique cette résurrection. Alors, je vais reprendre le texte du chapitre 7. C'est la rencontre entre Jésus et la veuve qui provoque une émotion tellement forte qu'il se sent obligé d'intervenir. L'expression consacrée, c'est « Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion ». Alors, je ne suis pas du tout hébraïsant. Il semblerait, d'après des gens plus compétents, que cette expression « ému de compassion » elle renvoie à quelque chose de viscéral. Vraiment quelque chose qui se joue dans les entrailles, être remué dans ses entrailles de pitié. Alors, par quoi exactement? Puisque la mort, ça arrive, c'est triste, mais qu'est-ce qui, dans cette situation-là, peut provoquer cette émotion très forte? Il me semble que Luc nous pose des éléments de contexte qui nous permettent de comprendre pourquoi Jésus identifie un besoin spécifique chez cette personne. C'est une veuve qui a déjà perdu son mari, qui perd son fils unique. Elle se retrouve donc isolée, mais aussi en précarité économique, puisque dans l'organisation de la société de cette époque, c'est à la responsabilité, déjà souvent des hommes, mais aussi dans l'occurrence du fils de subvenir aux besoins de sa mère, pour ce qui concerne sa survie quotidienne. Donc ça, c'est un premier point, un premier problème, c'est que pour cette personne, la mort de son fils, c'est un drame absolu, terrible, qui se double d'une mort sociale, qui n'est pas forcément évidente, dans le passage, puisqu'elle est très entourée, sur le long terme, qui peut se supposer, mais qui ne doit pas faire occulter tout ce que la loi avait mis en place pour le soutien des veuves, et qu'on peut imaginer aussi fonctionnel à l'époque. Je préfère quand même nuancer ça. Mais on peut le supposer de manière assez convaincante. On peut ajouter un autre point, c'est peut-être le désespoir de cette personne. Elle a vu partir son mari, elle voit partir son fils. Je me rappelle d'un certain nombre d'épisodes dans l'Ancien Testament où la mort d'un proche, les morts successives d'un proche peuvent être troublantes, perturbantes, et se poser la question de la façon dont Dieu nous perçoit, et notamment d'avoir la crainte que peut-être ces morts successives sont le résultat d'un jugement. Alors, ce n'est pas juste une idée comme ça. Dans le livre des Rois, puisque Luc fait référence en fait directement ici à un épisode qui concerne le prophète Élie, au chapitre 17 du livre des Rois, Élie est accueilli chez une veuve à Sarepta, donc on a la même situation avec Élie et le fils de la veuve qui décède. Et quand le décès survient, cette femme dit donc en Roi chapitre 17, premier livre des Rois, chapitre 17, verset 18, cette femme reproche à Élie cette mort et lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, donc de ma faute, et pour faire mourir mon fils ?» Et c'est pas juste, j'allais dire, l'expression de la détresse d'une veuve, puisque juste après, Élie, quand il prie pour la résurrection de cet enfant, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Donc lui-même, dans sa prière, pose cette question finalement de ce qui a provoqué cette mort, et donc de la crainte d'un jugement à l'égard de cette personne. Donc on peut supposer que Jésus, quand il voit cette veuve, il voit aussi ce qui se passe dans son cœur. C'est même plus que le supposer, en fait on le sait, puisqu'il est omniscient, donc c'est quelque chose qui est assez évident. C'est certain qu'il voit tous les aspects de sa détresse. Pas juste la perte de l'être aimé, mais la façon dont cette détresse bouscule et chamboule son rapport qu'elle peut avoir avec Dieu et la confiance qu'elle peut avoir en Dieu. Donc ça peut expliquer son intervention et cette résurrection. C'est pas seulement de l'empathie. Souvent, on voit ce passage comme une preuve de l'empathie de Dieu, c'est-à-dire la capacité de Jésus de compatir à notre souffrance, à se mettre à notre place, c'est la définition de l'empathie, Et donc, on en fait un argument pour montrer son humanité. On n'a pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui est capable de compatir à ce qu'on vit. Et c'est vrai. Mais pas seulement. C'est, à mon avis, le signe, la trace aussi de sa divinité, son caractère pleinement divin, puisque dans les caractères de Dieu, nous avons la compassion, la bonté et la miséricorde. C'est exprimé dans le Nouveau Testament. J'ai repéré ce verset chez Jacques, « Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion ». Mais c'est aussi très clair dans l'Ancien Testament. Alors là, j'ai plein de références. Exode 2, 25, 2 Rois 13, 23, Psaume 106, etc. Exode 2, 25 est intéressant, puisque c'est la première mention de l'expression « ému de compassion » dans la Bible, qui concerne donc Dieu, Yahvé. Au verset 25 de l'Évangile selon... du livre de l'Exode. Dieu regarda les enfants d'Israël, qui sont en situation de servitude, et il en eut compassion. La même structure. Il en eut compassion, c'est le même verbe qui est utilisé que pour, donc en hébreu, et pas en grec, pour le peuple d'Israël. Donc, la même structure, c'est intéressant, c'est qu'il voit, il regarde, il agit, il restaure. Il y a quelque chose d'immédiat. Et dans cette immédiateté, j'y vois aussi le signe de son autorité, sa souveraineté. Dans les deux miracles de résurrection, Luc prend soin de préciser que Jésus touche la bière, le cercueil, ou la personne décédée. Alors, c'est un intéressant... Enfin, c'est pas juste un détail. Dans la culture de cette époque, juive de cette époque, le mort est impur. On ne touche pas un mort. J'ai ce verset dans Nombre, Nombre 19, « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. » Donc, d'ailleurs, ça fait écho à la personne qui ose toucher le manteau de Jésus alors qu'elle souffre de la maladie de sang. C'est pour ça qu'il y a des liens entre ces deux miracles intercalés. La question du geste et de qu'est-ce qu'on ose par la foi avec un geste. Mais pour ce qui concerne la nature de Jésus, on peut y voir un signe de son autorité par rapport à la loi, de son autonomie, par rapport à la culture de son temps. Jusque-là, on est quand même dans quelque chose qui ressemble aux résurrections de l'Ancien Testament, puisque Élie comme Élisée aussi touche les personnes mortes dans le cadre de chambres isolées. On voit cette sorte de rituel là, qui nous échappe un peu, où ils se couchent sur l'enfant pour insuffler un souffle de résurrection. Là, on a quelque chose d'encore différent. C'est un premier aspect, une première couche, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que Jésus ne se contente pas de toucher les morts, il ordonne leur résurrection. C'est-à-dire qu'il décrète leur résurrection. On a cette phrase pour Naïn, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Pour Jaïrus, la phrase qui est dite en araméen chez Matthieu, « Talita kumi »,« Enfant, lève-toi. » C'est un décret royal, c'est-à-dire que Jésus parle et ça advient. Et c'est assez amusant parce que juste avant le miracle de Naïn, on a justement cette question de l'autorité qui se traduit par la parole, avec le centenier qui dit à Jésus « Mais tu pourrais guérir mon serviteur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, et à l'autre bien et il vient. » Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Donc, il y a cette valeur performative, comme diraient les linguistes, de la parole. C'est-à-dire que ce qui est dit advient réellement dans le monde réel. Donc, non seulement Luc place Jésus dans le sillon des prophètes de l'Ancien Testament, avec ses échos entre ce qui se passe chez Roi et ce qui se passe chez Luc, mais il s'en distingue aussi avec force, puisqu'il ordonne aux morts de revenir à la vie, ce que ni Élie ni Élisée n'avaient fait. Jésus ressuscite pourquoi ? Parce qu'il est Dieu, donc il est Dieu dans son autorité, dans sa compassion, et les résurrections montrent sa puissance, l'efficacité de son plan rédempteur et de réparation des vivants et des morts. Ça, c'est le point sur lequel aboutit cette révélation de la personne de Jésus. Elle a une conséquence directe, c'est que notre vision de la mort, notre compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue au moment de la mort, est complètement déconstruite et change de l'expérience qu'on peut en avoir fait, chacun avec ses parcours. Et les résurrections miraculeuses nous permettent justement de changer le regard, de changer le point de vue, pour essayer de voir comment Jésus lui-même voit la mort. Alors, ce troisième point, l'idée d'une déconstruction de notre vision, de notre compréhension de la mort, elle me vient de la façon dont Jésus parle de la mort dans ces deux passages. Il est question de sommeil à plusieurs reprises. C'est assez notable que l'image du réveil soit fréquemment utilisée. Alors, chez Luc, dès le chapitre 8 avec Jaïrus, où Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Mais partout ailleurs. L'expression la plus forte, c'est chez Jean avec Lazare, où Jésus dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » C'est une expression qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Il est question au psaume 13 du sommeil de la mort. Il est question dans les rois, avec un terme très précis qu'on retrouve juste dans les rois, de David, Salomon et d'autres qui se couchent avec leur père, donc avec l'image du sommeil. Et puis il y a ce verset chez Daniel dans une prophétie au chapitre 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la route éternelle. Alors je ne rentre pas ici dans des débats qui m'échappent sur ce qui advient de la personne juste après la mort. Alors, il y a des compréhensions différentes dans l'histoire de l'Église. Le courant évangélique aujourd'hui s'accorde sur la présence immédiate et le départ immédiat des personnes croyantes décédées devant la présence de Dieu. Dans l'Église catholique, on connaît le thème du purgatoire qui est un autre sujet. On a aussi différentes hérésies qui ont pu développer d'autres doctrines sur le sommeil des morts. Bon, peu importe. Ça ouvre tout un tas de questions, mais comme je l'ai dit au début, je n'ai pas l'intention de les traiter ce matin. Ce qui est important ici, c'est que la mort est vu comme quelque chose de provisoire et non plus quelque chose de définitif. Les frontières entre la vie et la mort sont brouillées et deviennent aussi poreuses que celles qui séparent finalement la personne qui se réveille de la personne endormie. Alors c'est important puisque on voit se dessiner tout doucement la réponse que Dieu donne à ce problème de la mort, ce problème qui nous concerne tous. Et qui frappe sans prévenir, comme dirait justement l'Ecclésiaste, hein, ce caractère arbitraire de la mort. Je vous cite un passage, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Donc il y a cette fragilité, cette vanité qu'il ne faut pas comprendre comme quelque chose qui n'aurait pas de sens, mais quelque chose qui est fugace, qui disparaît de nos existences. On peut le ressentir à des degrés différents, probablement que quand on est jeune, et à peu près fonctionnel, on a moins cette urgence au cou. Je connais des personnes plus âgées pour qui c'est la question en fait de chaque jour, à savoir est-ce que je vais réussir à fonctionner aujourd'hui et puis est-ce que c'est pas aujourd'hui que je vais partir. Donc là-dessus, il y a une perception, une sensibilité qui peut être différente selon les personnes. Et ce qui est important, c'est que la réponse est la même pour tous, à savoir que la résurrection est possible. Et cette résurrection est d'abord individuelle par le miracle que Jésus opère et promet pour la suite. J'insiste là-dessus, sur ces deux temps. D'un côté, on a cette réanimation du corps, les résurrections individuelles qui nous sont présentées, Naïn, Jaïrus, des miracles qui sont d'ailleurs souvent destinés plus aux proches des disparus, mais dont on n'a pas finalement l'expérience des ressuscités eux-mêmes. Ça, c'est assez frappant, c'est vraiment un point commun sur tous ces miracles de résurrection, c'est que le fils de la veuve parle, ce qui montre qu'il est bien ressuscité, mais on ne sait pas ce qu'il nous dit. Et puis, la fille de Jaïrus ne dit rien. Lazare ne dit rien non plus. Donc, les expériences de mort imminente, ça n'intéresse pas les évangélistes, ça n'intéresse pas sans doute aussi beaucoup l'esprit, puisque ce qui compte, c'est que ces gens, leur résurrection a eu lieu et a eu un effet sur leurs proches et sur les familles concernées. Mais pour eux, c'est un retour à la vie d'avant. Ils vont mourir de nouveau. C'est d'ailleurs, ça ouvre tout un tas de questions sur leur consentement, sur la façon dont les choses sont faites à long terme et sur leur avenir, parce qu'ils ne sont pas évoqués non plus à la suite dans l'Évangile. On ne sait pas ce qu'il advient d'eux. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont morts de nouveau. Donc ça, c'est, j'allais dire, la réanimation corporelle. De l'autre côté, on voit des annonces, notamment au chapitre 9 de l'Évangile, d'une résurrection finale, une résurrection totale, promise à tous les croyants. Alors, on peut lire ces versets, ça va être très rapide, puisque ce sont juste des mentions. Donc, Luc chapitre 9, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, verset 22, Luc 9, 22. Il ajouta, donc c'est Jésus qui parle, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc là, il est question de la résurrection de Jésus, une résurrection à venir, qui n'a pas encore eu lieu au moment du passage. Un peu plus loin, verset 44, il est question aussi de du fait que le Fils de l'homme doit être livré, mais ça n'évoque pas directement la résurrection. Et par contre, au chapitre 18, là, on a une autre évocation de la résurrection à venir de Jésus. Chapitre 18, verset 31 et suivant. Jésus prit les 12. Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. On le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et là, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à cela, alors qu'ils ont déjà assisté à des résurrections par ailleurs. Et donc, il y a une projection sur l'avenir qui concerne Jésus d'abord, puis ensuite, par indices successifs, on comprendra que l'ensemble des croyants sont concernés. Il y a déjà une trace de ça dans la discussion que Jésus a avec les Sadducéens, au chapitre 20. Je ne vais pas lire le débat, hein, qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais par contre, sur la réponse de Dieu, on a quelque chose de beaucoup plus fort comme affirmation. Au chapitre 20 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 36, la réponse de Jésus porte sur les enfants de ce siècle, donc tous ceux qui vont venir, qui vont mourir, pardon, ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts, donc on croit à la résurrection des morts, c'est pas juste des miracles ponctuels, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc il y a bien chez Luc ces deux temps. D'abord, on annonce la résurrection à venir de Jésus, et ensuite on élargit, par un indice là assez intéressant, à l'ensemble des croyants. Il est question de ceux à venir, mais aussi de ceux du passé, puisqu'il évoque Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob comme étant des personnes que Jésus considère, que Dieu considère comme étant vivantes, donc comme étant promises à une résurrection future. Alors, ce que pointe tout ça, c'est la victoire sur la mort, donc vu comme éphémère, comme un passage qui s'impose, mais que la mort et la résurrection de Jésus terrasse et ouvre la question de l'avenir et de la façon dont Luc présente la résurrection de singulière, c'est-à-dire le miracle de résurrection de Jésus. C'est mon quatrième point, la résurrection de Jésus chez Luc, une promesse vivante pour l'avenir. Pour marquer la distinction avec ce qui précède, le premier point, c'est que chez Luc, la résurrection de Jésus n'est pas un imprévu. C'est pas un hasard. C'est très clair. C'est l'accomplissement d'une promesse prophétique. Cet accent-là, mis sur la réalisation d'une promesse, on le voit tout le long du chapitre 24, puisque tous les dialogues successifs entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et ses proches, sont des moments d'explication pédagogique sur pourquoi ça devait avoir lieu. Alors, je vais prendre quelques exemples, parce que dit comme ça, c'est un peu général, mais prenons ce que les anges disent aux femmes. Donc, chapitre 24, verset 6, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. De quoi se souvint-elle exactement ? Des paroles du chapitre 9. Donc là, Luc s'auto-cite, dans une certaine mesure. Plutôt, les anges citent les paroles que Jésus, que Luc rapporte. Pardon, les paroles de Jésus que Luc rapporte. On a la même chose un peu plus loin. Jésus rappelle aux disciples d'Emmaüs, donc sur le chemin d'Emmaüs, avec une certaine colère, « Ô homme sans intelligence, verset 25, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et alors là, on a une pédagogie filée, hein, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, ça pourrait s'arrêter là, mais non. Verset 45, quand Jésus rencontre l'ensemble de ses disciples, et avant de partir, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, verset 44, pardon, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et on a de nouveau un moment d'explication de texte sur la base des textes donc de la Torah et de ce que Jésus a pu leur dire par ailleurs. Donc, première singularité de la résurrection de Jésus, elle n'est pas un imprévu, c'est un événement historique. C'est l'accomplissement d'une promesse prophétique, elle s'inscrit dans la chaîne des temps, et donc elle concerne à la fois le passé, le présent et bien sûr notre avenir. Autre différence énorme avec les résurrections dont on a parlé jusqu'à présent, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas temporaire. Déjà, elle a été ordonnée par Dieu lui-même dans un mystère qui nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le moment de la résurrection, le moment de la décision, le moment de la sortie du tombeau. Mais ce qui est certain, c'est que le corps est absent. Et c'est d'ailleurs un angle très important du point de vue de Luc sur la résurrection de Jésus, c'est que ça passe par le corps, et dans une dimension matérielle très marquée et paradoxale, puisque c'est par l'absence du corps que les anges disent « Ah ben non, il n'y a plus de corps, il est vivant ». Donc la présence vivante de Jésus est attestée par l'absence physique de son corps dans le tombeau. Verset 3 du chapitre 24. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Donc il ne s'agit pas d'avoir une preuve de sa résurrection, on constate l'absence. Par contre, les anges soulignent quelque chose de beaucoup plus fort. Jésus n'appartient plus au monde des morts, il est vivant et il ne mourra pas une seconde fois. Celui qui est vivant. Alors, dans cette expression « il est ressuscité », alors une personne de ma connaissance, que je n'ai pas le droit de vous citer, mais qui a 96 ans, m'a dit que le temps grec qui figure ici est un temps particulier. Donc, de ce que j'ai compris, il s'agit d'un temps qui s'appelle le temps aoriste, qui est en fait un temps indéfini, qui est intraduisible en français. Donc en fait, « il est ressuscité », c'est pas juste « il est ressuscité, ça a eu lieu, c'est chouette », c'est « il est ressuscité, il est toujours en train de ressusciter ». Il y a un aspect dans ce temps-là qui suppose l'infinité du temps. Alors ça, je crois sur parole la personne qui m'a dit ça, je vous demande de faire la même chose, mais il faudrait demander à un helléniste. En tout cas, c'est assez intéressant l'idée que Jésus, en fait, est vivant, et donc ne sera plus soumis aux contraintes mortelles, et reste vivant aujourd'hui. Alors, autre aspect, la résurrection de Jésus est totale, corps et esprit. C'est-à-dire que souvent, on a une vision un peu romantique de la résurrection, parfois échaudée par le cinéma ou par nos propres fantasmes, nos propres peurs. On a une vision un peu immatérielle de la résurrection, on pense aux fantômes, en fait, au retour de l'au-delà, aux zombies, ce que vous voulez. Quelque chose d'un peu magique, d'un peu effrayant, parfois. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Luc choisit l'angle de la proximité du corps, de l'intimité à nouveau, de manière assez marquée. C'est la révélation, enfin la résurrection de Jésus, c'est la révélation d'un corps que les disciples connaissent dans le cadre d'une relation, que les femmes connaissent dans le cadre d'une relation, Pierre en particulier, et qu'ils peuvent reconnaître. Un corps fonctionnel, matériel, physique, corporel, quelque chose de concret, et pas une projection immatérielle ou quelque chose qui nous échappe, un peu éthéré ou spectral. Je le vois au verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds », verset 39 du chapitre 24, pardon, on va le relire. Verset 39, « Voyez, alors c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples qui justement sont effrayés, saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. » Voyez mes mains et mes pieds, on peut penser ici qu'il y a une évocation des stigmates. « C'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, pardon, comme vous voyez que j'ai. » Et il leur dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, insiste le texte. Et on voit la joie des disciples ailleurs. Alors, à titre personnel, je ne sais pas comment je réagirais si j'avais devant moi la physicalité, la corporalité d'une personne décédée. Je pense que ça m'effraierait aussi, mais peut-être que pas. Peut-être que de toucher la personne, de voir, ça permet de dépasser, j'allais dire, la crainte que peut susciter une apparition aussi inattendue que le retour de quelqu'un qui est parti. Donc, pour appuyer ça, j'insiste sur cette question du corps, mais il y a quand même cette histoire de nourriture qui revient déjà au moment où la fille de Jaïrus est ressuscitée. La première chose que Jésus dit, c'est « donnez-lui à manger ». Donc c'est bien un corps, c'est pas un esprit. Et puis lui-même, au verset 42, s'en donne à cœur joie, verset 42, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Alors, sans doute, on n'avait-il pas besoin, enfin, peu importe la question, pédagogiquement, c'est très fort, ça leur montre qu'il fonctionne comme un corps physique devant eux. Alors, quelles conséquences ça peut avoir ? Alors déjà, moi, je trouve que c'est important dans notre compréhension du corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tendance un peu platonicienne, ou un peu... dire, bon, ce qui est important, c'est l'esprit, le corps spirituel, c'est spirituel, c'est pas forcément corps, donc... Le corps est important, dans la résurrection aussi, et la résurrection est totale parce que le corps est aussi concerné. La résurrection est complète parce que le corps est aussi concerné. Alors ça, pour quelqu'un de fonctionnel, à la limite, c'est un peu abstrait, mais pour quelqu'un qui prend de l'âge, qui est malade, ou qui meurt, enfin qui se voit dépérir dans une maladie grave, là, c'est beaucoup plus fort. Et puis, même par rapport au plan créateur de Dieu, pardon, on peut se dire, ben, en fait, la création initiale, avant la chute, était excellente. Le corps est une invention excellente, enfin, une construction, une création excellente. Donc, ça rappelle la perfection, j'allais dire, de la création dans son état initial, avant la chute. Et donc, la complexité physiologique du corps, c'est un chef-d'œuvre que Dieu ne va pas laisser tomber à partir du moment où, où le jugement a lieu et où la résurrection se produit. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, qui montre hein, cet aspect très physiologique et corporel de la résurrection, puisqu'il y a des questions d'os desséchés qui se reconstruisent, et puis l'auteur met en place un certain nombre de détails extrêmement précis et crus sur ce qui se passe. On voit les muscles qui se mettent, pas les tendons, mais en tout cas, il y a toute une histoire qui réjouirait les étudiants en médecine, mais qui est particulièrement importante et qu'on oublie parfois quand on parle de résurrection. Donc, un corps en fonctionnement qui témoigne de la vie de Jésus, qui témoigne aussi de la restauration de la relation entre Jésus et les siens et ses disciples, de la même façon que la veuve a vu revoir son fils, de la même façon que Jairus a vu revoir sa fille. Restauration, c'est un titre de film, ça réparer les vivants. Réparer les vivants, ça passe par la résurrection, dans une transformation complète, spirituelle mais aussi corporelle. Et ça, eh ben, c'est une espérance pour l'avenir, une espérance fabuleuse, puissante. La résurrection de Jésus complète annonce notre propre résurrection, annonce notre glorification, c'est-à-dire le point final du plan rédempteur de Dieu, l'attribution à chacune et à chacun d'entre nous d'un corps de résurrection, dont on a peut-être du mal à déterminer les contours, mais qui sera de toute évidence très ressemblant à ce que pourrait pu être la perfection de nos corps si le péché n'était pas arrivé. Alors, là-dessus, Luc est discret, mais il y en a un qui l'est beaucoup moins, c'est Paul, dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Et on peut lire un passage en particulier qui évoque cette résurrection totale, future, à venir. Donc, le chapitre est très long, on ne va pas le lire en entier, mais quelques passages. Le premier passage, donc, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, « Mais maintenant, verset 20, « Mais maintenant, 1 Corinthiens 15, 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu de la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Donc là, on a ramassé en quelques mots tout ce qu'on vient de dire juste avant, à savoir la résurrection des morts, c'est une chose, la résurrection de Jésus, c'en est une autre, et la résurrection future promise à tous, c'est le point final. Un peu plus loin, verset 35, « Mais quelqu'un dira, verset 35, « Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé !» Ouais, c'est le genre de question que je voulais éviter quand j'ai fait mon introduction. Ce n'est pas le sujet « insensé ». Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Dans ce « comme il lui plaît », il y a quelque chose d'assez triomphal. En fait, ça ne vous regarde pas. Comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'a pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, ce que nous vivons. Il ressuscite incorruptible, ce que nous vivrons. Ça, c'est moi qui le dis. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, on a bien ici développé sur l'ensemble du chapitre cette question de la transformation future, de la glorification, pour le dire simplement, qui nous est promise et qu'on est en droit d'espérer chacune et chacun dans sa situation, que l'on soit jeune et peu concerné, encore que, ou plus âgé et plus concerné, plus sensible du moins. Donc, nous avons vu que chez Luc, la résurrection n'était pas un spectacle, mais une révélation. La révélation de la personne de Christ, de son amour, de son autorité, de sa puissance. Cette révélation, elle culmine à la résurrection, avec un R majuscule, la résurrection de Jésus, qui est l'accomplissement d'une prophétie et la victoire, une première victoire, puisqu'il y aura, ça se déploie quand même dans le temps et dans l'histoire, cette affaire, la première victoire sur notre condamnation à mort, sur cette condamnation à mort qui nous concerne tous, et qui est notre lot commun. Elle annonce notre résurrection future, la transformation de nos corps, de nos êtres, corps et esprit, corps âme esprit, dans la gloire de Dieu. Et ça m'intéresse la notion de mémoire que Luc met en place dans ce dernier chapitre, avec les rappels sur l'écriture, puisque souvent on a une vision de la mémoire un peu, alors les historiens de l'art apprécieront, mais un peu musée, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas forcément vivant, mais je sais que je fais une erreur terrible en disant ça. En tout cas, une vision un peu muséale de la mémoire, chez Luc, elle est vivante, cette mémoire. C'est une mémoire qui doit se réactiver quotidiennement, on le fait avec la scène, et on doit le faire chacun quotidiennement. Donc, les Romains parlaient de memento mori, souviens-toi de ce que tu dois mourir pour avoir une sorte de sérénité sur la mort à venir. Ben, chaque jour, souviens-toi que tu dois mourir. Luc nous dit, souviens-toi que tu vas vivre, qu'il est vivant, et que tu es vivant grâce à lui, qu'il est ressuscité, qu'il est à nos côtés chaque jour, que nous allons ressusciter, que nos proches croyants vont ressusciter, que nous reverrons nos frères, nos amis, nos parents qui sont partis dans la foi, et que nous pourrons toucher ses mains, ses pieds, le voir, et manger avec lui, ce qui est une promesse tout à fait réjouissante. Donc chaque jour de la semaine qui vient, rappelons-nous que nous allons vivre, et que cela nous encourage à fonctionner chaque jour devant lui. Je vous remercie de votre attention.
Merci Pierre.